Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'info estivale de Radio Campus Angers.
Au programme du pédalo ce soir, en cette semaine de rentrée, l'UNEF publie son enquête annuelle sur le coût de la vie étudiante à Angers. Et malheureusement, comme tous les ans, le constat est sans appel, tout est de plus en plus cher. Pour détailler les résultats de l'étude, on sera avec Arthur Lévesque, membre du bureau national de l'UNEF. Voilà, vous savez tout de ce pédalo du mercredi 2 septembre, alors ajustez votre gilet de sauvetage, parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
41%, c'est le nombre d'étudiants angevins qui déclarent connaître des fins de mois difficiles ou très difficiles. Un chiffre publié par l'UNEF à l'occasion de la rentrée universitaire où plus de 20 000 étudiants retournent dans les amphis. Et ça, c'est que si on prend en compte les effectifs de l'université d'Angers. Et comme chaque année, à la même période, le syndicat publie donc son enquête sur le coût de la vie étudiante. L'occasion de rappeler les difficultés auxquelles cette population est confrontée. Difficultés qui, on le verra, sont de plus en plus croissantes. Et pour décortiquer ce rapport, on accueille avec nous Arthur Lévesque. Bonsoir.
Bonjour Simon.
Étudiant angevin, membre du bureau national de l'UNEF. Alors, dès le début de l'enquête, l'accent est mis sur le contraste entre la réputation d'Angers, celle d'une ville en haut du palmarès des villes étudiantes, et la réalité, celle d'une ville qui finalement est confrontée à de nombreuses difficultés. Pourquoi c'était si important d'abord de casser un peu ce cliché ?
Parce qu'en fait, on a une ville qui est agréable à vivre, c'est ce que montrent aussi les classements. On est souvent bien classé dans les villes avec un bon cadre de vie. Cependant, en fait, on a une municipalité qui met en place aucune réelle mesure pour les étudiants. La seule mesure dont ils parlent constamment, c'est le J d'Angers. C'est beau, ça fait un bâtiment avec un beau logo dessus. Mais matériellement, il n'y a rien qui est apporté aux étudiants, et spécifiquement aux étudiants non plus, parce que, en fait, on parle des jeunes avec le J, mais il n'y a pas des politiques qui ciblent spécifiquement les étudiants depuis le début du mandat de Béchu.
Et aujourd'hui, ces classements justement dont on parlait, ils prennent trop en compte le cadre de vie et pas assez les conditions de vie, c'est ça le problème ?
Bah bien sûr, et puis c'est les étudiants qui répondent à ces classements, donc en fait c'est aussi pour ça qu'ils sont plutôt bien diffusés. Mais en fait c'est que les étudiants, ils n'ont pas forcément conscience aussi de tout ce qui l'entoure et des pouvoirs de la municipalité et ce qu'ils peuvent mettre en place pour permettre aux étudiants de mieux vivre au quotidien.
Alors le premier point d'alerte sur cette enquête, il est bien sûr porté sur le coût de la vie qui continue d'augmenter, plus 0,84% en 2026 pour les non-boursiers sur le territoire angevin. Ça reste quasiment un point de moins que la moyenne nationale, mais pour l'UNEF, ça ne doit pas être une source de satisfaction, au contraire même.
Ah, en effet, en fait, c'est que au-delà de ce moins d'un point qui monte, en fait, c'est globalement un prix de la vie qui reste très cher. On est autour de 937 € de reste à charge par mois.
Donc c'est sans les aides, c'est ça sans...
Après avoir soustrait
après
les aides.
Soustrait les aides.
En fait, ça, on l'a calculé avec tout ce qui est nourriture, tout ce qui est logement, tout ce qui est eau, électricité, avec les indices des produits à la consommation. Donc c'est des chiffres, des indices qui sont faits par l'INSEE. Donc on est quand même sur une source qui est plutôt fiable. Et nous, en fait, on fait un cumul des chiffres de restauration, mais aussi d'alimentation. On fait la différence entre le restaurant universitaire et les courses pour manger le soir. Il y a aussi la question de l'électricité, de l'habillement, la question des services médicaux, parce que le non-recours aux soins, c'est aussi quelque chose qui touche les étudiants. Donc voilà, le but, c'est aussi de montrer que pour étudier dans de bonnes conditions, en fait, c'est 970 € par mois de reste à charge pour les étudiants non boursiers. Et c'est 809 € pour les étudiants boursiers, mais c'est aussi une augmentation plus haute, on est à 1,01% pour les étudiants boursiers.
Alors parmi ce qui coûte le plus cher aux étudiants et étudiantes, il y a bien évidemment comme chaque année le logement. En moyenne 483 € pour un logement indépendant et 400 en résidence collective. Là où l'aide au logement, pour celles et ceux qui la touchent, n'est en moyenne que de 188 €. Pour cette année, l'augmentation elle est plutôt faible, mais les étudiants continuent d'encaisser celle de 2025 qui, elle, par contre, était particulièrement violente.
Alors oui, en effet, entre septembre 2024 et septembre 2025, les loyers ont augmenté de 7%. Donc c'est une très forte augmentation et était deux fois supérieure à la moyenne nationale. À la rentrée 2025, en septembre, il y a les 620 nouveaux logements étudiants qui ont été ouverts, les nouveaux logements étudiants du CROUS qui ont été ouverts. Donc ça, c'est une victoire de l'UNEF de 2021 qui s'était battue justement pour ces logements en dénonçant l'augmentation constante des prix du loyer à Angers. Et ces 620 nouveaux logements étudiants, depuis leur mise en place en septembre 2025, aujourd'hui, l'augmentation a été que de 1% du coût des loyers. Donc, alors vous allez me dire que corrélation n'est pas causalité et que ce n'est pas forcément que ça qui a fait la différence, mais ça montre quand même que, en fait, on est bien en dessous des augmentations nationales et je pense que ces logements, ils n'y sont pas pour rien.
Oui, alors justement, ce point de satisfaction, donc, on le disait, c'est l'arrivée de ces 620 logements étudiants CROUS en 2025. Qu'est-ce que ça a réellement changé ?
En fait, c'est qu'avoir une offre de logement public sur une ville universitaire, c'est très important parce que ça permet aux étudiants de se loger pour pas cher ou en tout cas pour moins cher que le marché. Vous le disiez, la moyenne du logement étudiant c'est, public, c'est 400 euros. Un logement à 400 euros aujourd'hui à Angers, c'est soit insalubre, soit c'est une arnaque. Enfin, il n'y a pas d'entre-deux. Et le fait que le CROUS puisse permettre de proposer des logements moins cher que le prix du marché privé, ça permet aussi de sécuriser les dépenses des étudiants. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que tous les étudiants puissent être dans des logements CROUS, parce qu'en fait, un, c'est une certaine sécurité, deux, ils sont proches des campus, et trois, c'est aussi un organisme qui comprend les problématiques étudiantes, c'est aussi eux qui versent la bourse, donc il y a aussi une facilité aussi d'interagir avec le public étudiant, et nous, d'entrer en contact avec eux lorsqu'il y a un problème.
Et c'est pour ça d'ailleurs que l'UNEF appelle encore à plus de nouveaux logements et aussi à rénover les actuels face au marché de l'immobilier angevin qui lui est toujours plus tendu.
Alors en effet, il y a une nécessité d'avoir plus de logements CROUS parce qu'en fait aujourd'hui on est à 6,9% de logements étudiants sur Angers par rapport au nombre d'étudiants. La moyenne nationale est 7, donc en soi il nous reste encore 0,1% à atteindre pour dépasser la moyenne nationale. Mais en fait une moyenne c'est pas suffisant, c'est que si on est dans la moyenne, c'est bien, on est au milieu, on est ni bien ni mauvais, on est parfait. Mais faut quand même essayer de trouver un peu plus de logements étudiants pour pouvoir sécuriser tout ça. Il y a aussi en effet la nécessité d'une rénovation du parc privé aussi, parce qu'en fait la qualité des logements dans le parc privé c'est une réelle problématique et dont les étudiants souffrent tous les jours. Enfin nous les problèmes de moisissure, de nuisibles, c'est quelque chose qu'on croise tous les jours. Et enfin il y a aussi des propriétaires qui en fait délibérément ont des logements de mauvaise qualité, ils le savent et ils conservent leur logement dans de tels états. Et du coup, pour nous, il y a une nécessité de créer une commission de contrôle des logements insalubres afin en fait de pouvoir signaler les abus et les propriétaires qui abusent de leur pouvoir sur un étudiant qui du coup se retrouve sans forcément de diversité dans son choix de logement parce qu'en fait, sinon c'est au-dessus de son budget.
Et alors justement, ces logements de mauvaise qualité, ils sont aussi souvent synonymes de dépenses en plus, notamment à cause de difficultés à se chauffer, et on le sait en plus, le prix de l'énergie lui aussi continue d'augmenter.
Bien sûr. Enfin, l'électricité, c'est aussi un gros enjeu, et en fait, il faut aussi permettre aux étudiants de pouvoir éviter d'avoir des dépenses annexes qui, du coup, va forcément venir plomber la facture et, comme tu le disais, décompenser le bas prix d'un loyer, entre guillemets. Et puis, en fait, ça vient aussi s'ajouter à ça, la question des aides, c'est qui peut toucher les aides. Là, en 2026, depuis janvier, le budget de l'État n'inclut pas les APL pour les étudiants étrangers. Et en fait, ça précarise encore plus des étudiants qui sont, en général, pas les plus riches, et qui se retrouvent donc à devoir louer des logements ou des endroits pour se loger qui sont d'encore moins bonne qualité et du coup les exposent encore plus à toutes ces variables à ce niveau-là.
On aura l'occasion justement de développer cette question des étudiants étrangers. Pour rester sur le logement plus précisément, donc on l'a dit, se loger à Angers c'est difficile par rapport au prix, mais aussi par rapport aux places disponibles. Le risque c'est quoi ? C'est que on se retrouve avec une rentrée où encore beaucoup d'étudiants n'ont pas de logement et doivent trouver des solutions annexes, que ce soit, on sait que dans des villes comme Rennes, par exemple, certains étudiants se retrouvent au camping ou dans leur voiture. C'est un risque qu'on peut avoir à Angers ou alors d'avoir des étudiants qui se tournent vers, on le disait tout à l'heure, des logements insalubres.
Alors déjà évidemment il y a la question des logements insalubres, mais il y a aussi la question des premières couronnes et des deuxièmes couronnes. C'est aussi vers là que se réfugient les étudiants parce que on a quand même un réseau qui dessert les villes de la première couronne, donc qui permet une certaine flexibilité en termes de logement. Mais en fait du coup après se pose la question de la mobilité, c'est comment on rejoint son campus, est-ce qu'on y va en voiture parce qu'il n'y a pas de place à côté du campus, est-ce qu'on y va en bus, mais ce qui fait qu'en fait on peut se retrouver facilement avec une heure de transport en commun, le temps de faire ses correspondances, sachant que on est quand même dans un dans une ville qui a une structure très centrifuge, c'est qu'on va, c'est enfin centripète plutôt, qui va beaucoup vers le centre, et qu'en fait dans tous les cas on doit passer par le centre-ville pour ensuite rejoindre les campus. Donc voilà, il y a quand même d'autres enjeux qui, en fait, si on choisit de s'éloigner des campus, ben en fait ça allonge notre temps jusqu'à la fac, et du coup bah c'est plus de fatigue, c'est des journées plus longues, et c'est le fait de pas pouvoir rentrer chez soi entre deux cours. Voilà, c'est plein de difficultés en plus qui apparaît, et sans parler de la voiture.
Un effet domino en tout cas sur toutes ces problématiques. On en parlait justement à l'instant, donc de la question des difficultés liées au logement. Elle est donc d'autant plus importante pour les étudiants étrangers, en tout cas hors Union européenne, puisque depuis cette année ils n'ont plus accès aux APL.
En effet, et plus que ne plus accès aux APL, ils ont vu leurs frais d'inscription être multipliés par 16. Suite à un décret du gouvernement en mai, les frais d'inscription s'élèvent à environ 2 900 € pour des étudiants étrangers en licence. Donc quand on parle d'étrangers, c'est hors Union européenne, parce que sinon il y a les accords de l'Union européenne qui protègent les étudiants. Là, on parle de hors Union européenne, c'est les étudiants qui doivent demander un visa, qui du coup viennent en France pour étudier. C'est environ 2 900 € pour les étudiants en licence et environ 3 700 € pour les étudiants en master. Et c'est quelque chose qui pose beaucoup de questions, parce qu'en fait c'est une surtaxation des étudiants étrangers, c'est faire peser sur eux encore plus le risque de la précarité, sachant que c'est en plus les jeunes les plus isolés en général, ces étudiants là et vient s'ajouter à ça le fait que, en fait, les étudiants étrangers, ils n'ont pas la liberté de travailler comme les étudiants français. C'est que les étudiants étrangers, avec un visa étudiant, ils sont limités à 60% d'un temps plein. Donc c'est environ une vingtaine d'heures par semaine. Un étudiant étranger ne peut pas travailler plus que 60% d'un temps plein, sinon il doit changer de visa et avoir un visa de travailleur. Et c'est encore pire pour les étudiants algériens, qui eux sont limités à 50% d'un temps plein. Et ça permet à l'État d'être... de faire de la sélection, même dans son racisme, et de choisir si les nations qu'elle aime le moins.
Globalement, l'estimation de la hausse cette année pour les étudiants étrangers, on est à 3 151, c'est ça à peu près ?
Oui, environ.
Alors, tu commençais à un peu aborder cette question du racisme. Pour l'UNEF, c'est clair, hein, dans le rapport, on est vraiment face à une forme de racisme assumé ?
Bah, c'est de la xénophobie, en effet. C'est toute chose qui vient de l'étranger doit être taxée plus pour financer l'université. C'est en fait inciter les étudiants à ne pas venir, plus simplement. Alors il y a certaines dispositions qui permettent aux étudiants qui étaient déjà en France de pouvoir continuer à étudier avec une certaine qualité. Je pense notamment le fait qu'un étudiant qui continue sur son cursus continue de payer le même prix que l'année dernière, donc comme les étudiants européens. Et les étudiants qui sont déclarés fiscalement depuis plus de 2 ans en France, donc qui déclarent leurs revenus en France depuis plus de 2 ans, sont eux aussi, ont eux aussi les mêmes frais d'inscription que les étudiants européens.
On continue de parler de l'enquête locale sur le coût de la vie étudiante de l'UNEF, mais avant on fait une pause musicale. On écoute Lucio Bukowski, c'est un rappeur, beatmaker et compositeur lyonnais. Le morceau s'intitule Carpath, c'est sorti cette année et c'est en duo avec Chip. A tout de suite dans le pédalo.
Part de rien, après chaque sommet atteint, après chaque sommeil atteint, on transforme chaque soir en matin. En vrai jamais on a le temps, en vrai jamais on ne s'atteint. On s'arpente, on serpente autour de béton de satin. Crache une dialectique bleue sur des balles à fricarlate. Ça fait des nuits violettes, des nuits violentes, des 8h30, c'est les Carpates. Dedans nos mondes en chute libre, un rêve de gosse en moins parlate. À part niquer l'infrastructure, frère, le reste c'est de la parlotte. Hey. Va leur dire aux petits qu'on ne lutte pas armes égales au cœur de leurs sales hégémonies. On a que les codes qu'on nous permet, on les dépasse, on les réduit. On recompose des langues puissantes, on est déçus mais rien marxiste. Faut plus que l'envie s'endorme, des petites œuvres sous les grands dômes. Vie nouvelle dans les temps morts, nique les larves, hein, les gens mornes. Les petits rois et les grands bornes qui réinventent des légendes d'or. Faut ça pur, hein, de Pandore. Dans les longueurs, emmène pas large. Y'a pas que les rois qui passent à l'as. Des balles à blanc dans leur calache. Je laisse la mienne, tu tapes ta trace. L'oligarchie te pèse ta race. Que des photons dans le fond de ma crasse. Du 20 ans d'âge au fond de ma tasse. Du 20 ans d'âge au fond de ma tasse. Je fais une musique d'arriéré, mais m'exprime mieux que ces fils de rentiers. Ils ont fait l'école normale, j'ai lu tout Dante. J'ai ma raison, ils ont des Rolex, mais bande mou. C'est qu'une petite élite, on est des grandes foules. Des nouvelles vedettes chaque semaine remplies de grands vides. Des fils de 68 qui votent PS, tranquille. Tu connais la mentale, le jeu est lamentable. Tous dans le même navire avec les cales en flammes. On est d'un autre bois, notre art d'un autre poids. Non convertible en disque d'or, c'est une autre foi. Ouais, c'est une autre croix, on emprunte d'autres voies. On souffle un autre choix, on gonfle d'autres voiles. J'ai commencé par quelques textes depuis des fonds de bus. Aller-retour entre le 800 et l'intramuros. Tout ce silence était des longues ruses, des corpus liminaires instruits de Saïd Demuro. Autopsychanalyse avec des 16 bars. Je me suis bâti entre des kilotonnes de mots crasseux. J'en ai fait des concerts plutôt que des messes basses. À raffiner à l'opposé des jacasseurs. Je repars de rien après chaque sommet atteint. Après chaque sommeil atteint, transforme chaque soir en matin. En vrai jamais on a le temps, en vrai jamais on s'atteint. On s'arpente, on serpente autour de béton de satin. Crache une dialectique bleue sur des balles à fricarlate. Ça fait des nuits violettes, des nuits violentes. Des 8h30 c'est les Carpates. Dedans nos mondes en chute libre, un rêve de gosse au moins parlate. À part niquer l'infrastructure frère, le reste c'est de la parlotte.
C'était Carpates de Lucio Bukowski et Chip. Vous êtes toujours sur Radio Campus à l'écoute du Pédalo. Et on est avec Arthur Lévesque du Bureau National de l'UNEF pour parler de l'enquête locale sur le coût de la vie étudiante. Alors parmi les focus qui sont faits, on a commencé un petit peu à en parler tout à l'heure sur cette enquête. Il y a aussi la question donc, des transports avec un premier problème souligné, celui de l'absence de tarif spécial pour les étudiants.
Oui, en effet, nous, c'est une réelle problématique qu'on rencontre au quotidien. En fait, la tarification sociale pour les moins de 26 ans, c'est que selon le quotient familial. Nous, ça nous embête parce qu'en fait, c'est toujours rattaché l'étudiant à ses parents. Dans un discours, dans une société qui tend à vouloir, dans leur discours, à autonomiser la jeunesse, à les rendre plus responsables, en fait, c'est contre-productif et c'est illogique par rapport à l'argumentaire de toujours les rattacher à leurs parents. En fait, les revenus des parents ne font pas les revenus de l'étudiant. C'est pas parce que des parents gagnent un peu mieux leur vie qu'ils peuvent aider leurs enfants, que ce soit là où ils vivent, que ce soit les frais qu'ils peuvent avoir à supporter au quotidien, que ce soit les histoires de vie, et qu'en fait, permettre aux étudiants de pouvoir avoir une tarification sociale sur leur transport par présentation de leur certificat de scolarité, c'est aussi permettre une meilleure justice et une meilleure égalité entre tous. Parce que, en fait, si on faisait en sorte que présenter un certificat de scolarité, c'était tarif social pour tout le monde des 70 euros, ce serait changer la vie de un tiers des habitants, si on prend que ce danger, parce qu'on est 150 000 habitants pour 46 000 étudiants, et tout de même un sixième des habitants de la métropole, puisqu'on est environ 300 000 dans la métropole angevine. Donc en fait, c'est aussi permettre aux étudiants d'être plus autonomes, et aussi de ne pas prendre le risque de frauder les transports en commun. Parce qu'il y a une étude de l'Université d'Angers qui a été publiée l'année dernière sur les conditions de vie étudiante. On base beaucoup de nos chiffres sur ceux de l'université, parce qu'il y a quand même 10% des étudiants de l'université qui ont répondu, un peu plus de 10% qui ont répondu à l'enquête. Et nous, on est assez triste de ne pas avoir vu de réponse quant à la fraude en fait, des transports en commun, parce qu'en fait, nous sommes certains que les étudiants ils fraudent au quotidien les transports en commun par manque de moyens, et parce qu'en fait, c'est un risque qu'ils sont prêts à prendre pour aller en cours.
Et est-ce qu'à terme, la gratuité des transports en commun serait la solution? Et comment est-ce qu'elle pourrait être mise en place?
Tu sais me parler, Simon, je pense que c'est en effet la seule et unique solution dans une finalité, puisque c'est le droit à la mobilité, c'est le droit de la liberté de mouvement, et permettre à chacun de pouvoir en fait, se déplacer un peu partout dans la ville, c'est aussi lui donner le pouvoir d'aller travailler, le fait de ne pas pouvoir forcément dépendre de ça à la fin du mois pour pouvoir aller à la fac, et justement pas avoir la peur de croiser les contrôleurs, parce qu'en fait, ce mois-ci, on n'avait pas l'argent de prendre l'abonnement, et pour ceux qui diront qu'en effet, il faut prendre l'abonnement annuel dès le début, comme ça, on ne prend pas de risque, en fait, c'est que rien qu'avec les frais de scolarité, qui sont de 280 euros en licence, plus les 264 euros d'abonnement de transport, on est déjà sur un billet de plus de 500 euros au premier jour de la fac. C'est quelque chose que tout le monde ne peut pas se permettre.
Oui, la période n'est pas forcément la plus opportune pour faire des grosses dépenses.
En effet, ça peut être réaliste si on égrène les dépenses, mais rien que si on passe en abonnement mensuel, c'est 22 euros par mois. Au total, 22 euros par mois sur l'ensemble de l'année scolaire, ça fait plus que l'abonnement de 164. Donc ça pose aussi question sur la possibilité de le faire. Et vous allez dire que même si c'est que 22 euros, les étudiants ils sont à 22 euros près.
Alors, autre problème qui est dénoncé sur la question des transports, c'est les horaires. Pas assez de trams tard le soir, des quartiers populaires mal desservis comme La Roseraie et Montplaisir. Il y a vraiment un réseau à repenser ?
Il y a un réseau à repenser. Alors, il y a une nouvelle offre qui a été mise en place, qui a été publiée le lendemain de notre étude. Donc, c'est bien parce qu'on avait lu la décharge de service public qui avait été signée par la métropole avec RATPDF, qui est l'exploitant de Irigo. Avant l'étude, c'était un circuit, comme pour une ligne de bus. Donc, cette ligne, elle mettait de côté Montplaisir et La Roseraie, qui restent quand même deux quartiers qui sont beaucoup habités par les étudiants, hein, au-delà d'être des quartiers populaires, parce que les quartiers populaires aussi ont le droit d'être accessibles en transport en commun. Et la nouvelle offre qui consiste à, après 1h du matin, aller à Cœur de Maine pour le nord de la Maine et aller à Lorraine pour le sud de la Maine et demander à la carte son arrêt, elle est très bien pour les gens qui sont en ville et qui veulent retourner dans les périphéries, mais en fait elle oublie totalement la question centripète de si on est dans un des quartiers de la ville, que ce soit n'importe lequel autre que le centre, que ce soit La Roseraie, que ce soit les Hauts-de-Saint-Aubin, que ce soit Belle-Bey, que ce soit la Doutre, ben en fait on est obligé de marcher jusqu'au centre pour pouvoir avoir accès au transport, puis ensuite aller à l'arrêt qu'on veut, que ce soit en fait n'importe où en ville, mais qu'en fait ça oblige de toujours converger vers le centre, et qu'en fait on peut pas avoir des déplacements transversaux sans devoir au moins marcher quelques kilomètres, ce qui peut être peu rassurant pour certains, ou en fait tout simplement éviter de vouloir marcher 10 bornes pour rentrer chez soi le soir, que ce soit en rentrant de soirée ou en rentrant du travail, parce que les étudiants ils travaillent et c'est une réalité.
Oui, alors justement, ça empêche pas mal d'étudiants de sortir le soir. Alors, on pourrait se dire que la fête, c'est secondaire, mais ça reste quand même des moments de socialisation importants, à une période de la vie quand même assez charnière. Là aussi, c'est révélateur d'inégalités, cet accès au loisir, au plaisir.
Oui, tout d'abord, moi, je voudrais dire que tous les étudiants ne sortent pas. Alors, le jeudi soir, on voit des étudiants, c'est vrai, il y en a qui sortent, il y en a une partie qui sortent, mais c'est pas un luxe que tout le monde peut se payer, parce que la sociabilité, quand on est étudiant, quand on a 937 € de reste à charge par mois, ça reste un luxe, et que tout le monde peut pas y avoir accès. Donc, en effet, c'est une première chose. Dans un second temps, c'est aussi, c'est quand même très agréable de pouvoir sociabiliser, de pouvoir rencontrer des gens. On a vu pendant le Covid que l'isolement, c'était aussi une grande cause de la détresse des étudiants, et ça a posé beaucoup de problèmes au moment du confinement. Donc en fait, permettre à ces étudiants de sortir, c'est aussi s'assurer que notre jeunesse puisse vivre, enfin pas que notre jeunesse d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui sont étudiants, et c'est important de le rappeler, en fait, les gens ils puissent vivre, qu'ils puissent aussi sociabiliser, qu'ils puissent rencontrer du monde, et c'est aussi en fait permettre de pouvoir vivre une scolarité, enfin un enseignement supérieur épanoui, que d'avoir des amis, que d'avoir des gens autour de soi, et de pouvoir aussi se joindre aux moments conviviaux. Parce que si tous vos amis ou tous vos camarades ils peuvent sortir en soirée et que vous vous retrouvez sans rien, en fait forcément ça peut isoler, que ce soit volontairement par gêne ou par honte, soit par les autres qui se disent de toute façon il sort jamais, on le voit jamais, donc on sait pas qui c'est et donc on le côtoie pas.
Et c'est un paradoxe pour une ville qui s'auto-félicite de sa réputation de ville dynamique et étudiante.
Bien sûr, et puis la ville est très bonne pour s'auto-féliciter. C'est d'ailleurs souvent les seuls qui se félicitent. Mais en fait, il y a beaucoup de questions sur... en fait, au lieu de se féliciter, il faut aussi regarder le chemin qui reste à parcourir. Et il y a beaucoup de chemins que la ville ne parcourt pas. Donc en fait, il y a une réflexion à avoir et que nous, en fait... Ce qui est très révélateur aussi, c'est la réaction aux enquêtes de l'UNEF. L'année dernière, il y avait un média qui avait questionné M. Benjamin Kirchner, qui est l'adjoint à la jeunesse de la ville, sur l'enquête de l'UNEF qui avait été posée, et il avait dit « Oui, mais de toute façon, ils ont toujours que des critiques à adresser. » En fait, c'est qu'il y a des choses qui sont faites. Les logements crous, c'est une très bonne chose. Mais il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles il faut avancer. Et il faut aussi que la ville, elle accepte de se dire que elle n'est pas parfaite, certes, et c'est même une preuve d'intégrité politique, de savoir reconnaître ce qui nous reste à faire et ce qui nous reste à parcourir. En fait, nous, on ne demande pas que la ville elle soit parfaite là tout de suite. On lui demande de reconnaître tout ça. Et elle nous demande de porter attention au discours qu'on porte et pas de nous marginaliser parce que oui, c'est l'UNEF, c'est des étudiants, ils n'ont aucune conscience du monde.
Alors, pour les exclus des transports en commun, l'usage de la voiture s'impose. On en parlait justement pour les personnes qui vivent en périphérie. Mais là encore, les problèmes subsistent. D'abord, le coût. C'est pour beaucoup des étudiants qui vivent chez leurs parents, donc ils n'ont pas forcément de loyer, mais c'est compensé aussi par de grosses dépenses automobiles.
Alors, en effet, la question de l'automobile, c'est une question qui est très intéressante. Il y a environ 29% des étudiants qui utilisent la voiture tout seul, et au total, ça montre environ un tiers des étudiants qui l'utilisent en comptant le covoiturage. Moi, je vous conseille d'aller autour des campus. Saint-Serge est quand même un campus qui est au cœur de la ville. On a tous vu les dernières politiques municipales autour du stationnement. Saint-Serge, c'est quelque chose qui n'est pas accessible gratuitement, à part Rochefoucauld, mais qui est régulièrement fermé pour que ce soit pour les événements. Là, je sais qu'il a fermé, je ne sais plus exactement pour quel événement. Il va refermer pendant un mois, pendant le mois de novembre, pour la Foire Saint-Martin. Il faut permettre aux étudiants d'avoir accès à leur campus gratuitement. C'est ça aussi une priorité. De plus, côté Belbeil, les parkings, ils ont été supprimés petit à petit. Que ce soit celui devant la cité universitaire, la toute nouvelle cité universitaire qui a été réduite d'un quart et qui a été fermée pendant un an, l'entièreté du boulevard Lavoisier qui a été transformée en piste cyclable sur les côtés et que les étudiants continuent à se garer dessus. Enfin, c'est une réalité, je vous conseille d'aller voir les étudiants. Bah, en fait, ils se garent malgré tout sur la piste cyclable parce qu'ils n'ont aucune autre alternative. Il y a aussi au-dessus de la fac de lettres un parking qui est à moitié la possession de l'UA, l'autre moitié la possession de la ville. Ce qui fait que les tracés, ils n'ont aucun sens et on pourrait bien plus optimiser ce parking et faire en sorte qu'il soit mieux fait. Et en fait, ça fait que les étudiants, ils se retrouvent sans forcément de place autour de leur campus. Et le parking le plus proche, c'est le P+R, le parking relais de Irigo. Et le problème, c'est que comme il est estampillé Irigo, les étudiants, ils n'osent pas se garer dessus parce qu'ils se disent moi, je prends pas le tram. Si je prends pas le tram et qu'ils se rendent compte, est-ce que je peux me faire retirer ma voiture? Est-ce que je peux me prendre une amende? Est-ce que je vais payer plus? Donc en fait, le problème, c'est qu'il n'y a aucune communication claire dessus et que la voiture, on peut pas l'éliminer. Alors le tram, c'est une très bonne chose. Hein. Ça a réduit les mouvements automobiles individuels et collectifs vers le campus, mais on peut pas éliminer la voiture parce que y a toute la deuxième couronne et tout
au-delà. Oui, hormis avrier, le tram ne dessert pas.
Et il y a tout au-delà de Angers et de sa première couronne qui a besoin de venir à l'université aussi et qu'on ne peut pas éliminer le problème et qu'en fait, si on élimine toutes les possibilités et qu'on fait comme s'ils n'existaient pas, en fait, ça empire juste le problème.
Oui, soucis, c'est vraiment donc, ce manque de place de parking, et donc le risque pour les étudiants, c'est de devoir se garer sur des emplacements interdits, et justement, à l'UNEF, vous militez aussi carrément pour la fin de la verbalisation à proximité des établissements.
En fait, le temps de régler le problème, oui, il faut une fin de verbalisation, parce qu'en fait, c'est pas demain que le parking va être fait. C'est pas, on sait que les propositions ne vont pas apparaître comme ça du jour au lendemain. Donc en fait, il faut proposer des solutions qui vont permettre aux étudiants d'aller en cours sans forcément se mettre en danger financièrement. Parce qu'on parle de ça, c'est une réelle mise en danger financière de l'étudiant à ce niveau-là. Et que c'est nécessaire de pouvoir permettre aux étudiants d'aller en cours. Et en fait, déjà qu'on leur reproche d'aller en soirée, donc si on leur reproche aussi d'aller en cours, dans ces cas-là, il faut juste leur dire d'aller au travail, et nous, on n'est pas d'accord avec cette vision de la chose.
Alors, un autre point qui n'a rien à voir, mais qui est quand même lié de près ou de loin, qui abordait dans cette enquête, c'est celui de la restauration. Le repas à 1 euro est toujours salué, mais pour autant, il ne répond pas toujours aux attentes, notamment concernant les différents régimes alimentaires.
Oui, en effet. Alors, tout d'abord, on ne le dit pas assez, et les gens ne se félicitent pas assez en général. Alors, à part la ville d'Angers. Mais du coup, moi aussi, je vais nous féliciter, parce que le repas à 1 euro, c'est une grande victoire. C'est quelque chose qui avait été porté, qui a longtemps été porté par l'UNEF, qui a été amplifié pendant la crise Covid, et qui a été obtenu au moment où, en fait, les étudiants, justement, j'en parlais tout à l'heure, qui étaient seuls dans leur chambre, où le marché de l'emploi était à l'arrêt, et que du coup, personne ne voulait les recruter, et que du coup, ils étaient dans une importante précarité alimentaire, et ça a résolu des problèmes. Là, après plusieurs aléas, on revient enfin à un repas à 1 euro intégral, et c'est une très grande victoire, et c'est important de le souligner, on va permettre à nos étudiants de pouvoir manger pour pas cher. Mais il y a des limites. Déjà, on est limité à un repas par jour. Sachant que... il y en a même trois, si on
même
compte
trois.
Le petit-déj. C'est important de pouvoir permettre aux étudiants de manger. Dans un second temps, il y a des menus qui sont, en cafétéria surtout, très inégaux. On a supprimé la moitié de l'offre, il n'y a plus les plats préparés à l'avance, parce qu'en fait, le crous conditionné des plats cuisinés préparés le matin pour pouvoir les distribuer en cafétéria, ceux-ci ont été supprimés de la formule, il ne reste plus que des sandwichs, et il n'y a que des alternatives à base de porc en plus, et un sandwich végétarien qui reste très limité en termes de diversité. Donc, nous, en fait, on a une critique qui a été... posé au crous, qui est celle de, tout d'abord, on enlève le seul plat équilibré de la formule, cafétéria, et dans un second temps, il y a une diversité de profils qui fait que tout le monde ne mange pas de viande, tout le monde ne mange pas forcément de porc aussi, et le fait de ne pas avoir pensé à mettre des alternatives, ça montre aussi la perspective dans laquelle ces menus ils ont été élaborés. Donc, nous, on réclame évidemment le fait que ces plats préparés ils reviennent, et offrir un sandwich ou panini qui a un menu différent que le houmous carotte, c'est aussi permettre aux étudiants de manger autre chose que la même chose toute l'année.
Et puis au-delà de ça, il y a aussi la question de la quantité, beaucoup de pénurie également, souvent dans les cafétérias.
En effet, les cafétérias, les plats, ils sont préparés à l'avance par les personnels du Crous, ce qui fait qu'en fait, ils sont limités par leur effectif. Mais ça, en fait, les personnels du Crous, ils ne peuvent rien. C'est qu'en fait, le Crous, il leur manque 70 millions d'euros pour pouvoir mettre en place le repas en euros de la bonne manière. L'État, il a donné 50 millions sur 120 millions, il a juste financé le repas en euros au sens propre, c'est ce que coûtent les marchandises. Mais il n'a pas financé les augmentations de masse salariale, il n'a pas financé les augmentations de taille des bâtiments, il n'a pas financé le fait que le matériel il va subir une vague supplémentaire et plus importante de vaisselle, de cuisine. Et en fait, il y a une nécessité que l'État il finance les institutions, surtout que le CROUS, c'est le seul service public qui est exclusivement dédié aux étudiants, qui a été nationalisé en 55 d'ailleurs, parce que c'est une création de l'UNEF à l'origine. Et il y a une nécessité de faire en sorte que le CROUS il puisse protéger les étudiants, parce que les étudiants ils sont vulnérables face au système.
On a beaucoup parlé des étudiants à travers le prisme de l'université publique, mais dans cette enquête, les autres étudiants ne sont pas oubliés. À Angers, un étudiant sur trois est dans le privé, des formations plus chères, et un essor qui traduit finalement un échec de l'enseignement public.
Bien sûr. Alors nous, à l'UNEF, je vais vous donner tout de suite notre avis, on est profondément contre l'enseignement privé. Parce que, en fait, l'enseignement privé, c'est marchandiser la connaissance.
Je précise qu'on est dans les locaux de l'UCO, quand même.
Oui, moi, j'espère que l'Université d'Angers pourra un jour vous trouver des locaux pour que vous soyez directement à domicile, j'aurai moins à marcher.
Mais que nous restons indépendants.
Vous restez évidemment indépendants. Mais nous, notre position, c'est qu'on est profondément contre l'enseignement privé. Et qu'en fait, pour nous, c'est une marchandisation du savoir. Et que le savoir, ça va pas être une marchandise. C'est censé être une création qu'on diffuse, qu'on permet à chacun de pouvoir acquérir. Et le but, c'est de pouvoir permettre à chacun de pouvoir s'émanciper par la connaissance. Et c'est ça le plus important. Aujourd'hui, on a fait une moyenne entre une douzaine d'écoles privées. Dedans, on va autant dans celles qui coûtent le plus cher, comme l'ESCA, qui est quand même autour de 12 500 euros l'année, celles les plus fréquentées, comme par exemple l'ESA et l'UCO, qui sont plus autour de 5 000 et 7 000 euros par an, sachant que pour l'UCO, on a fait une moyenne, ils sont entre 3 000 et 8 000 en vérité, mais aussi les moins chers, comme les BTS, je prends l'exemple du Sacré-Cœur, de Saint-Aubin, qui sont autour de 1 650, 1 700 euros. En fait, en moyenne, on est autour de 6198,62 € par an pour une année. Mais qui a les moyens de sortir 6198,62 € par an lorsqu'on est étudiant? Enfin, on sait que c'est les parents qui payent, ou on sait que les parents aident, ou alors c'est un pré-étudiant. C'est l'étudiant qui se précarise en espérant pouvoir être inséré sur le monde du travail, sachant que les écoles privées, ils font leur formation non pas parce qu'il y a une demande de la part des entreprises. Non, ils font une formation parce que il y a possibilité de faire du bénéfice dessus. Et matériellement, ce sont des entreprises et les étudiants d'écoles privées sont des clients. Et que quand on voit qu'il y a une licence, par exemple, de communication ou d'infocommunication à l'UCO, ça questionne aussi sur est-ce que lorsqu'il y a 80 personnes dans une licence d'infocommunication, est-ce qu'on peut matériellement promettre que ces 80 personnes seront insérées sur le monde du travail? Non, c'est pas possible. On sait tous que c'est un milieu qui est en crise et qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et pourtant, il y a des licences entières qui sont consacrées à ça. Mais en fait, ça pose aussi question sur pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce que c'est pour leurs intérêts économiques ou est-ce que c'est pour former des étudiants? Et enfin, dernière chose, en fait, c'est des gens qui ne sont pas du tout protégés. Enfin, en fait, il y a un encadrement des écoles privées qui est quand même flou, notamment sur Parcoursup, sur ce qui est contrat, sur, sous contrat, ce qui est hors contrat.
Oui, le risque de se retrouver dans une formation qui finalement n'est pas vraiment une formation qualifiante.
Exactement. Moi, je prends l'exemple de l'ESPL et toutes ces succursales comme MBWay et tout. C'est pas des écoles qui sont reconnues par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ils ont des formations qui sont qualifiées par le ministère du Travail. Et une formation par le ministère du Travail, c'est pas un diplôme. Alors, vous allez me dire, oui, c'est des équivalents. Mais le problème, c'est que le diplôme, il n'est pas garanti. C'est que si demain, moi, je sors de l'université d'Angers, aujourd'hui, j'ai une licence d'histoire. L'université d'Angers, si aujourd'hui elle ferme, je garde un diplôme d'histoire d'une université, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Demain, l'ESPL ferme, en fait, ils ont des diplômes du ministère du Travail. L'école, elle n'existe plus dans 10 ans. Personne ne sait ce que c'est et personne ne sait la qualité qu'a le diplôme.
Et peut-être aussi quelque chose sur lequel l'UNEF alerte, c'est aussi le danger, cet essor du privé qui serait un danger aussi pour le monde de la recherche.
Bien sûr, on voit aussi la privatisation se faire, même dans les universités déjà, mais aussi par exemple l'année dernière il y a eu un scandale sur le financement par Pierre-Édouard Sterrin, actionnaire d'extrême droite de l'UCO. Il y avait une mobilisation des étudiants, il y avait 200 étudiants qui avaient signé une pétition. Alors je peux vous dire, c'est moi toutes mes pétitions, il y avait 200 personnes les signaient, j'ai gagné, je vais vous dire qu'on aurait beaucoup de victoires à l'UNEF Angers. Mais en fait ça montre aussi que ça banalise les investissements et qu'on accepte l'argent d'où qu'ils viennent. Moi je peux aussi prendre l'exemple de Toulouse. Toulouse, il y a un master financé par Total qui a été mis en place, qui vante les mérites de Total comme une entreprise verte qui fait des actions pour pour l'écologie, mais en fait c'est matériellement faux, c'est de la propagande pour des entreprises qui du coup rentrent dans l'enseignement supérieur public, parce que l'enseignement supérieur public est en profond manque de moyens, et que du coup ils vont chercher tous les moyens possibles qu'ils peuvent saisir, que ce soit par des appels à projets qui les ruinera sur un plus long terme, ou par des entreprises qui du coup ne cherchent que des salariés qui sont déjà prêts à entrer sur le monde du travail, qui sont déjà prêts à être recrutés sans aucun esprit critique, alors que le but de l'INIRC c'est d'offrir de l'esprit critique et de l'émancipation par la connaissance.
Merci beaucoup Arthur Lévesque d'avoir été avec nous, membre du bureau national de l'UNEF, qui vient donc de sortir son enquête annuelle sur le coût de la vie étudiante. Bonne soirée. Le pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La programmation continue sur le 103FM, alors restez bien à notre écoute et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.